Quel sentiment tu ressens?
J'aimerais faire une introspection, quoi.
Trouve-moi un dictionnaire, regarde la introspection. S'il nous envoie ça à travers la gueule, je veux savoir ce que c'est.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers auditeurs et auditrices, c'est une nouvelle fois Nicolas et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau prêt-à-penser consacré aujourd'hui à un sujet qui a beaucoup fait débat il y a quelques semaines suite à une interview d'Audrey Pulvar, interview polémique donc, autour de la question des groupes de parole non mixtes. Alors les groupes de parole non mixtes faisaient déjà un peu débat avant l'interview d'Audrey Pulvar. Rappelons ce qu'est un groupe de parole non mixte. Eh bien, c'est un groupe de parole organisé dans le but de favoriser l'expression de personnes faisant partie d'un groupe social donné, subissant des discriminations. Ce groupe peut être défini par un genre, une origine ethnique, une couleur de peau ou encore une orientation sexuelle. Et justement, il se trouve que le syndicat étudiant UNEF a organisé et défendu ce genre de réunion, notamment des groupes de parole réservés aux personnes noires, provoquant l'indignation de toute une branche de la sphère politique qui dénonce un racisme anti-blanc. Très récemment, j'en parlais tout à l'heure, Audrey Pulvar, journaliste amorçant une carrière politique, interviewée à ce sujet sur une chaîne d'information française, affirmait que s'il n'était pas question de jeter les personnes blanches dehors, on pouvait en revanche leur demander de se taire. Phrase qui a été vécue comme scandaleuse pour beaucoup de personnes, souvent blanches d'ailleurs. Il est vrai qu'au premier abord, le principe de demander à quelqu'un de se taire en raison de sa couleur de peau peut paraître peu compatible avec les idéaux égalitaires et universalistes. Mais cela dit, il faut parfois se méfier des apparences et il peut être intéressant de se pencher sur le sujet de ces groupes de parole non mixtes au regard de la psychologie, de la souffrance des victimes de discrimination et de la libération de leurs paroles. Historiquement, rappelons que les groupes non mixtes ont d'abord concerné les femmes. En France, on assiste aux premières réunions explicitement non mixtes dans le cadre de la Révolution française, durant laquelle les femmes révolutionnaires ressentent un manque de place accordée à leur point de vue et décident de ce fait de se réunir strictement entre femmes afin d'élaborer et de donner un poids supplémentaire à leurs paroles. Plus proche de nous, et encore concernant le combat féministe, le mouvement de libération des femmes, le MLF, organise des réunions uniquement féminines dans la foulée de mai 68, s'inspirant de groupes exclusivement féminins existants aux États-Unis dans le cadre des luttes syndicales où des ouvrières se réunissaient pour défendre leurs intérêts face au patronat exclusivement masculin. Françoise Pic, une militante MLF et historienne, se rappelle, je la cite, « Dès qu'on s'est retrouvés entre femmes, on a vu qu'une parole se libérait. Cela a changé notre façon de nous définir et notre rapport au monde. » Voilà quelque chose de très intéressant d'un point de vue psychologique. Se réunir strictement entre personnes vivant des sorts discriminatoires similaires permettrait de libérer une parole. En psychologie, le groupe de parole est en effet un outil très largement utilisé. Son indication relève plutôt des cas portant sur un vécu plus ou moins traumatique, provoquant un effet d'inhibition chez le sujet. Des cas dans lesquels se pose la question de la légitimité de la souffrance et de son expression. Par un regroupement de personnes aux problématiques similaires, ces personnes peuvent s'identifier les unes aux autres par un trait commun, mettant ainsi à distance la notion de jugement associée socialement au caractère anormal, au sens de ce qui diffère de la norme, de la majorité. Car oui, le premier problème du vécu minoritaire dans une société, c'est que ce vécu est d'abord un vécu coupable lié à l'anormalité. À l'échelle individuelle, ce vécu coupable peut même tendre à justifier les diverses discriminations, rendant alors impossible pour le sujet tout seul une reconnaissance de son statut de victime. La norme du groupe social est en effet tellement écrasante qu'elle ne laisse pas au sujet individuellement d'autre choix que de se vivre comme inadapté, coupable de sa différence, mettant en danger la cohérence du groupe dominant. La création d'un groupe de parole et d'échange entre personnes d'une minorité donnée vise donc à atténuer l'inégalité de ce rapport de force entre l'individu différent et le groupe normé. L'individu peut alors s'identifier à un sous-groupe et du même coup se décaler de sa culpabilité individuelle, être témoin du vécu d'un autre semblable à lui et peu à peu ressentir une légitimité à sa souffrance. Les réactions discriminatoires du groupe ne sont plus des effets naturels face à une anomalie bizarre, mais des symptômes sociétaux pouvant, devant être pensés, interrogés, voire contestés. Le groupe de parole est donc effectivement un dispositif de libération de la parole par son action déculpabilisante. Cette mise à distance de la culpabilité suppose l'absence d'éléments pouvant évoquer, rappeler, incarner l'omniprésence du regard jugeant du groupe dominant. Ainsi, et c'est là que nous entrons dans le vif du sujet, la simple présence d'un homme au sein d'un groupe de parole féminin peut être empêchante, tout comme la simple présence d'une personne blanche au sein d'un groupe de parole composé de personnes noires. L'exclusion de ces personnes ne relève pas, et c'est là que réside la confusion selon moi, l'exclusion de ces personnes ne relève pas d'une exclusion d'un débat politique, mais d'une exclusion d'un groupe thérapeutique traitant d'une souffrance qui n'est pas la leur. Leur présence, à ce stade, n'a juste aucun sens. Je dis à ce stade parce qu'il faut bien replacer le groupe de parole non mixte dans la bonne perspective. Le groupe de parole non mixte est une étape fondatrice, une étape cruciale, mais simplement une étape visant à permettre l'émergence d'abord, puis ensuite la formulation d'un point de vue, d'un discours collectif. Ce n'est qu'ensuite, plus tard que ce discours, parce que formulé collectivement, pourra apparaître sur une autre scène, qui est celle de la place publique, lieu de tous les débats politiques. Et c'est alors, sur cette scène-là, et pas avant, que deviendra pertinente la vigilance à l'absence de toute exclusion. Car il n'y a pas de débat sain sans la représentativité d'un maximum de points de vue autour d'un sujet donné. Voilà, j'espère que ce prêt-à-penser vous aura intéressé. N'hésitez pas à y réagir en envoyant vos mails à Radio G via le site internet ou en réagissant sur Facebook sur ma page Nicolas Andrades Psychologue. Je serai heureux de vous répondre et de débattre avec vous. Dans tous les cas, je vous dis à dans 15 jours pour un prochain prêt-à-penser.
Ça va mieux ?
Eh, beaucoup mieux.
Super.